me dit non, cela veut dire peut-être. Quand elle dit peut-être, cela veut dire oui. Et quand elle dit oui, ce n'est pas une dame. Quand un diplomate dit oui, ça veut dire peut-être. Quand il dit peut-être, ça veut dire non. Et quand il dit non, ce n'est pas un diplomate.
De la différence entre une dame et un diplomate, c'était ce dimanche sur RFI dans l'émission Idée. Pierre-Edouard Deldic recevait l'ancien ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro. Anecdote ou blague qui nous révèle que le langage diplomatique est une langue en soi, parfois, qui a besoin de traduction. Ce que nous allons faire aujourd'hui avec Daniel Joanneau, lui aussi ancien ambassadeur et auteur du Dictionnaire amoureux de la diplomatie. Son Excellence, bonjour.
Bonjour Pascal Parentou.
Ça commence comme ça, Excellence? Ou c'est un peu désuet, trop protocolaire? Comment on dit pour dire bonjour à un ambassadeur?
Quand vous êtes français et que vous vous adressez à un ambassadeur ou à un ancien ambassadeur français, vous dites monsieur l'ambassadeur.
Donc je devrais dire ça.
Et excellent, c'est quand vous adressez à un ambassadeur étranger à Paris.
D'accord. Donc, monsieur l'ambassadeur Daniel Joanneau, que pensez-vous de cette boutade racontée par votre homologue qui a démontré ces derniers mois qu'il pouvait user d'un langage autre que diplomatique, notamment pour parler du président des États-Unis?
Elle est drôle, mais les diplomates ont tout intérêt à dire la vérité.
Toute la vérité?
Ils ne sont pas obligés de dire tout ce qu'ils savent. Mais ils ne peuvent pas dire le contraire de la vérité, parce que ça se verra un jour ou l'autre et leur crédit sera en danger.
Alors, il y a une autre citation que je n'ai pas trouvée dans votre livre, mais qui circule, que l'on attribue à Clémenceau, disant « Pour être ambassadeur, il ne suffit pas d'être con, mais il faut être poli ».
Vous la connaissez. Oui, non. Il est très important d'être poli. Et pour le reste, quand vous regardez nos ambassadeurs aujourd'hui, ou les ambassadeurs en général, et les diplomates en général, sont des gens qui ont été sélectionnés sévèrement, qui ont de grandes qualités professionnelles, qui sont engagés dans leur métier, qui sont passionnés par leur mission. La diplomatie a beaucoup changé depuis 150 ans. Ça, c'est sûr.
Avec ces blagues, je vous mets un petit peu à l'épreuve, monsieur l'ambassadeur, mais dans votre livre, à la rubrique humour, vous citez quand même quelques phrases célèbres, parce que finalement, ce métier inspire. Les auteurs, les ambassadeurs, les politiques, tout le monde a quelque chose à dire sur ce qu'est être un diplomate.
Beaucoup de choses ironiques ont été écrites sur le métier de diplomate et je les recense dans le livre, des phrases de Balzac, avant lui des phrases de Diderot, Tolstoï a écrit aussi des choses assez cruelles sur les diplomates. Et tout ceci est entré dans le disque dur, au fond, de l'idée que les gens se font de ce métier. D'autre part, vous n'avez pas beaucoup d'occasions forcément de rencontrer un diplomate en vrai. Vous n'avez pas non plus beaucoup d'occasions de lire dans les journaux des interviews de diplomates ou d'entendre des voix de diplomates à la radio, car ils s'effacent derrière leur ministre. Donc, qui voit les diplomates? Les Français qui vivent à l'étranger, les Français qui voyagent et qui ont tout d'un coup un problème, tsunami, catastrophe quelconque, et alors là, toute l'équipe de l'ambassade est là pour les assister. Mais je crois que c'est cette absence de contact qui explique en partie la pérennité de ces préjugés. Et alors que le métier de diplomate, c'est un métier d'action, c'est un métier de terrain, un métier concret.
C'est pour cette raison que vous avez écrit ce dictionnaire amoureux.
Oui.
Ça dit bien ce que ça veut dire.
Oui.
Amoureux de la diplomatie pour lever finalement des incompréhensions.
Oui, absolument.
Ou casser les pieds à des clichés.
Et oui, absolument. Absolument. Parce que je trouvais qu'il fallait expliquer ce qu'était le métier réellement et qui a de très nombreuses facettes. Il y a aussi la diplomatie multilatérale où vous représentez les valeurs, les idées de votre pays dans une enceinte internationale.
Pour être un diplomate, faut-il être diplomate? Parce que c'est aussi une qualité que l'on prête à certaines personnes qui ne sont pas forcément des diplomates. Et vous citez, c'est Somerset qui écrit un diplomate est un homme qui se rappelle l'anniversaire d'une femme mais qui oublie son âge.
Oui. Mais je crois que d'abord il faut savoir écouter les autres. Si vous parlez tout le temps comme diplomate, vous n'êtes pas un bon diplomate. Il faut éviter de porter des jugements péremptoires. Comprendre le pays où l'on est ou comprendre la position des autres dans une négociation pour proposer à votre pays une ligne et puis être curieux des autres. Je crois que c'est une qualité assez simple, mais avoir envie de découvrir des cultures, des langues différentes.
Daniel Joanneau, il y a des diplomates fringants, mais il y a aussi les Cowboys fringants. C'est un groupe québécois avec un nouvel album dont le titre ne peut que vous séduire, vous le voyageur, les Antipodes.
J'ai mon 5000 pieds carrés, la grosse piole dans un quartier, flat comme le fond d'une bouteille, où les maisons sont toutes pareilles, les symptômes prémensuels d'une faillite trop personnelle, un set d'outdooring dans le salon, la pancarte avance sur le gazon. J'ai une ex-femme qui m'en veut, les enfants une semaine sur deux, puis un psy vraiment trop classe qui m'écoute, me plaint pour 100$, sûr que je ferai broyer personne, avec le spleen des pays riches, dans une ère qui distorsionne, c'est tout le monde qui a le bonheur qui criche. Mais dès que le jour s'éveille, sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Oh, et comme des milliards d'humains, je me ferai croire que tout va bien, tant que se lèvera le soleil, sur les maisons toutes pareilles. Pratique le semblant de rien, et je donne mon accord tacite au triomphe d'un monde qui s'effrite. Climat fucked up, écocide, c'est donc ben plate d'être lucide. Je préfère mettre la switch off en attendant la catastrophe. Mais que le jour s'éveille, sur les maisons toutes pareilles, la vie qui reprend son cours, oublie le compte à rebours. Wow, et comme des et croire que tout va bien tant que se lèvera le soleil sur les maisons toutes pareilles. Wow, 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 wow.
Les Cowboys fringants sur RFI, de la chanson québécoise et de l'art d'être diplomate, avec Daniel Joanneau, auteur de ce dictionnaire amoureux de la diplomatie qui va de A à Z, ce qui est logique pour un dictionnaire. Z comme Zimbabwe, car vous avez été en poste là-bas au moment de l'indépendance. Et vous en faites d'ailleurs un exemple pour la diplomatie britannique qui a accompagné le virage vers la démocratie de ce pays.
Ah oui, vraiment, la diplomatie britannique a réussi à asseoir autour de la même table Ian Smith, qui dirigeait la Rhodésie blanche depuis des années, et puis les grands leaders de la résistance africaine qui étaient Robert Mugabe et Joshua Nkomo. Et ils se sont mis d'accord sur un chemin qui conduisait à l'indépendance, avec une brève période de transition pendant laquelle la Rhodésie redevenait britannique, gouverné par le gouverneur Lord Soames, et indépendance, élections législatives, présidentielles, et tout ça dans l'ordre, contrairement à toutes les inquiétudes. Et pendant 2-3 ans, ça a marché.
Voilà donc pour le Z, mais le A, c'est alcôve.
Oui.
Est-ce qu'il y a du vécu dans cet article?
Non, mais quand vous regardez la façon dont Talleyrand négociait au Congrès de Vienne, vous voyez que sa nièce, entre guillemets, frétillait pas mal, allait voir ces messieurs et, par des moyens qui lui étaient propres, ramenait à Talleyrand beaucoup d'informations précieuses pour la suite de la négociation.
Monsieur l'ambassadeur, regardez-moi dans les yeux, c'est terminé cette époque? Ou ça existe encore, la diplomatie d'alcôve?
Je crois que les gens sont prudents.
Beaucoup plus prudent qu'à une époque.
Certainement.
Alors après alcôve vient, Daniel Joanneau, le nom, plutôt le mot d'ambassadeur, c'est assez logique. Et vous nous racontez donc l'histoire de ce mot, mais aussi de sa fonction. Et faut revenir aux années 1600 à peu près pour comprendre et voir l'émergence de ce métier d'ambassadeur, sachant que le mot et la fonction ont évolué quand même au cours des siècles et depuis la Renaissance.
En effet, c'est l'Italie qui a inventé les ambassadeurs, c'est-à-dire des diplomates qui sont nommés dans un pays, qui restent dans ce pays, alors qu'avant c'était des messagers qui revenaient avec la réponse. Et toutes ces petites cités italiennes, ces petites républiques, Venise, Milan, Turin, etc., qui étaient en rivalité, se surveillaient mutuellement en permanence et essayaient de deviner le jeu des grandes puissances. Et c'est là que donc la République de Venise a nommé les premiers ambassadeurs. C'est dans ces pays-là aussi que les autres pays ont nommé des ambassadeurs. Mais il n'y avait pas de métier diplomatique à proprement parler, il n'y avait pas de carrière. Ce n'était pas un système professionnel. On était nommé parce qu'on était riche, parce que les ambassadeurs devaient recevoir, les ambassadeurs nommés par le roi de France, par Louis XIII, Louis XIV, etc. Il fallait qu'ils soient somptueux. Et pour donner une très bonne image du roi. Et c'était eux également qui rémunéraient leurs collaborateurs. Ils les choisissaient, ils les payaient. Et ce système a duré très longtemps, en fait.
Oui, ça s'est professionnalisé beaucoup plus tard.
Beaucoup plus tard.
Avec l'époque contemporaine, en fait.
Beaucoup plus tard. Et en fait, c'est la Troisième République qui a créé le concours pour entrer au Quai d'Orsay et qui a décidé que tout le monde serait payé à l'intérieur d'une ambassade. Et c'est aussi là que la noblesse a perdu le monopole du recrutement des diplomates en France. Avant, on considérait qu'il fallait avoir des diplomates issus de la noblesse, puisque l'Europe était monarchique. Mais la Troisième République a changé ça. Elle n'a pas non plus procédé de chasse aux sorcières, c'est-à-dire que la Troisième République a conservé les ambassadeurs issus de la noblesse qui étaient loyaux et qui s'étaient convertis à la République. Et puis, peu à peu, le recrutement des diplomates s'est démocratisé de plus en plus, jusqu'à la création de l'École nationale d'administration, où là, un pas en avant a été franchi.
Alors, la professionnalisation s'est faite de façon assez tardive, mais vous nous racontez, parce que votre livre, Daniel Joanneau, est une mine avec des quantités d'informations, que le premier traité de diplomatie remonte toujours à François Ier, 1603, et qu'il est écrit en français, avant même que le français devienne la langue de la diplomatie, ce qui a été le cas au 19e siècle. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Plus vraiment. Aujourd'hui, c'est le soft power qui a pris le dessus en anglais dans le texte.
La langue française n'est plus la langue de la diplomatie comme elle l'a été au fond jusqu'à la guerre de 14. Et l'anglais est devenu l'autre langue diplomatique au moment de la négociation du traité de Versailles, parce que les Américains étaient là, ils ne parlaient pas français. Mais le français reste une langue importante pour les diplomates de beaucoup de pays, comme deuxième langue ou troisième langue.
Oui, et puis ça reste une langue internationale.
C'est une langue internationale, et ça fait chic d'apprendre le français.
Alors, vous avez exercé dans de nombreux pays non francophones, en grande majorité, au Mozambique, au Liban, au Canada, où on parle un peu plus français, j'imagine, ou au Pakistan. Et vous témoignez, en fait, dans ce livre, Daniel Joanneau, de l'appétence pour le français. Vous êtes un admirateur de la francophonie ou un artisan de la francophonie, en fait.
Admirateur, en tout cas, c'est sûr. Vous avez des gens qui sont obligés d'apprendre le français. Par exemple, dans les pays d'Afrique francophone, c'est la langue française qui permet de communiquer d'une région à l'autre, d'une langue régionale à l'autre. On a bien vu, j'étais en Guinée après la mort de Sékou Touré, la première mesure qui a été prise, c'est de rétablir le français que Sékou Touré avait supprimé. rétablir le français parce que d'une province à l'autre de la Guinée, les gens ne pouvaient plus se parler.
Oui, vous racontez une anecdote formidable où sous Sékou Touré, tous les livres avaient été supprimés et finalement, dans une ville où vous allez, j'ai oublié le nom de la ville, il ne restait plus qu'un livre.
Oui, donc le français avait été supprimé, les livres de français étaient quasiment interdits, mais précieusement, un certain nombre de Guinéens très francophiles gardaient chez eux des livres de français. Et le plus beau cadeau que notre ambassadeur Henri Rétoré pouvait faire à ce moment-là, lors de ses déplacements en province, c'était un livre en français. Alors, habituellement, on offrait un beau livre sur Paris ou sur les châteaux de la Loire, et là, il restait plus rien d'autre à l'ambassade qu'un beau livre sur les horloges de Franche-Comté. Et je me souviens de ce sous-préfet de Sengarédi, au nord de la Guinée, qui offre un déjeuner en l'honneur de l'ambassadeur, et à la fin du déjeuner, l'ambassadeur dit « J'ai un cadeau pour vous ». Il lui remet ce livre, les horloges de Franche-Comté, et le sous-préfet prend le livre, le serre contre sa poitrine et pleure.
Comme quoi, finalement. Comme quoi. Alors pour autant, quand il faut se faire entendre, il est parfois nécessaire de s'exprimer en anglais. On a beaucoup entendu ces derniers jours, et pour cause, c'est le coup de gueule de Jacques Chirac à Jérusalem, en 1996.
Encore comme problème. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France, is that what you want? Then let them go, let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation.
It's not a provocation.
Please, you stop now.
Jacques Chirac en anglais, tant pis pour la francophonie. À l'époque, Daniel Joanneau, je crois que vous étiez chef du protocole à l'Élysée.
Oui, j'avais préparé cette visite en Israël et je voyais bien qu'il n'y avait pas un très grand enthousiasme à Tel Aviv à l'idée de recevoir ce président qui aimait beaucoup les pays arabes, qui était l'ami du Liban, etc. Et donc, la préparation s'était faite dans un climat pas très facile, et la visite s'est déroulée dans un climat tendu avec ce paroxysme bien connu. Mais c'est peut-être parce qu'il a parlé en anglais, dans un anglais très clair, très compréhensible, que l'image et le son ont fait le tour du monde très très vite.
Mais comment un diplomate réagit après un incident comme celui-là, qui n'était pas du tout, si ce n'est contrôlé, calculé en tout cas. C'est vraiment comme ça. À un moment, Chirac se lâche, si j'ose dire. Comment le chef du protocole que vous êtes, ou un ambassadeur en poste, réagit face à un événement comme celui-là?
Le président Chirac a donné ordre à notre ambassadeur en Israël, Jean-Noël de Bouyane de Lacoste, d'adresser immédiatement une note de protestation aux autorités israéliennes pour cette attitude de provocation de la part de la police. Et Netanyahou s'est excusé publiquement. Je me rappelle très bien la conférence de presse. Netanyahou, embarrassé, dit « je suis désolé pour ce qui s'est passé, mais quand nous accueillons des hôtes très très importants, nous prenons des mesures de sécurité à la mesure de cette importance. »
Donc le consensus n'est pas toujours le propre de l'ambassadeur.
Non.
Ou le compromis, ou la politesse. On peut aussi être ferme quand on est ambassadeur.
Il faut être très ferme. Et un diplomate en privé peut dire des choses très désagréables à un chef d'État étranger ou à un ministre étranger dès lors que c'est en tête-à-tête.
Mais en privé.
Privé,
en public.
Sans aucun témoin.
Parce que dans votre livre, vous racontez les faits d'un groupe facétieux de jeunes diplomates du Quai d'Orsay qui ont fait une espèce de cours accéléré de langage diplomatique. Oui. Et c'est vraiment l'art du mensonge. Les discussions se poursuivent, ça veut dire qu'on n'y arrive pas. Le moment venu, on ne sait pas quand. Votre demande a recueilli toute notre attention, ça veut dire que la réponse est non. Donc en public... Toujours l'art du compromis et d'arrondir les angles.
En privé, c'est la franchise qui paye à la longue.
Et en public, c'est la langue de bois.
Non, on n'est pas obligé de pratiquer la langue de bois, mais il faut faire attention à ce qu'on dit quand même, bien sûr.
Alors, à mon tour d'être un peu facétieux, je vais vous proposer un petit exercice de traduction à Daniel Joanneau. En juin 2017, Emmanuel Macron venait de rencontrer le président ukrainien de l'époque, Petro Poroshenko.
La volonté qui est la mienne, et nous en avons longuement parlé, c'est de pouvoir, lors de notre prochain échange en format Normandie, mettre sur la table une série de conditions nouvelles pour, de part et d'autre, faire mouvement et essayer de trouver une solution concrète de sortie de crise. Et je crois qu'on ne doit pas s'habituer ni au non-respect, ni à la non-avancée de ces accords sur place, ni au fait que nos discussions soient condamnées à ne pas aboutir. Et donc, la dynamique dans laquelle je m'inscris, c'est bien celle du processus de Minsk, mais c'est aussi d'avoir un format de discussion efficace pour que l'ensemble des parties prenantes conduisent à, d'abord, un partage d'informations et une compréhension commune de la dynamique sur le terrain, d'où ma volonté d'avoir l'OSCE présente, et surtout à des résultats concrets qui marquent une dynamique d'avancée.
Daniel Jouanneau, si je veux être un petit peu caricatural et traduire le président Macron, ce qu'il dit là, ça veut dire que ça patine.
C'est une négociation qui est très complexe, cette négociation Russie-Ukraine avec les Français et les Allemands. Donc non, le président est très persévérant. On va reprendre maintenant ce dossier. Les diplomates sont à l'œuvre. Nous avons un envoyé spécial qui, depuis des mois et des mois, essaie de maintenir le fil du dialogue entre Russes et Ukrainiens. Et j'espère qu'avec le nouveau président ukrainien, on finira par y arriver.
Alors, dans votre dictionnaire amoureux de la diplomatie, Daniel Jouanneau, il y a beaucoup de noms propres. Pourquoi ? Parce que finalement, la diplomatie repose aussi sur les hommes, sur leur caractère, que ce n'est pas de la politique étrangère. Vous faites le distinguo entre diplomatie et politique étrangère.
Oui, ce n'est pas du tout un livre de réflexion sur la politique étrangère, mais tout se ramène à travers les pages au métier de diplomate. C'est-à-dire, comment Talleyrand négociait-il ? Est-ce que Chateaubriand a été un bon ambassadeur à Londres? Est-ce que Stendhal, quand il était consul en Italie, faisait le service minimum? Et vous avez Richelieu, Mazarin, qui ont été vraiment les pères de notre politique étrangère et de l'appareil diplomatique.
Et vous rendez aussi hommage aux interprètes, que vous appelez les petites chaises.
Ah non, c'est-à-dire que dans un grand dîner d'État officiel, l'interprète est derrière les deux chefs d'État sur une chaise, et donc c'est ce qu'on appelle petite chaise. Mais petite chaise, c'est uniquement dans les très grandes occasions comme ça. Sinon, l'interprète, il est dans une cabine quand il y a une négociation internationale à interpréter, ou bien il est à la table de la négociation quand il s'agit d'une séance de travail. Et ce sont des gens absolument indispensables, formidables, et que j'admire. Je les ai beaucoup côtoyés quand j'étais chef du protocole, Christopher Thierry, Brigitte Stoffès, d'autres. Et je trouvais qu'il fallait permettre de mieux les connaître.
Oui, il n'y a pas de diplomatie sans traduction. C'est le principe même de la diplomatie. Daniel Jouanneau, de l'art des petites phrases et des expressions toutes faites, je vous propose de retrouver Lucie Bouteloup et sa chronique du mercredi.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Pascal.
Vous êtes peu diplomate aujourd'hui.
Je suis peu diplomate et pour preuve, la puce, qui n'est pourtant pas du genre à chercher la petite bête, revient quand même aujourd'hui sur l'expression « chercher des noises ». Alors, si vous connaissez l'expression, vous ne savez certainement pas ce qu'est une noise, ni même quel mot elle a pu inspirer à nos amis les Anglais. Pas de panique, Daniel Lacote revient aujourd'hui sur cette expression, nous en dit plus, avec la complicité des CM1 de l'école Boulanger à Paris.
Chercher quelqu'un, mais dans le sens faire la bagarre.
Je pense que c'est plutôt chercher des noisettes.
Se taper au sens bien se bagarrer.
Des noix, c'est peut-être des histoires, des sortes de légendes.
Il y a une noisette qui pourrait nous tomber sur la tête. Ça voudrait dire qu'on se ferait mal avec juste une simple petite noisette. On aurait mal pour rien du tout.
Qu'on cherche quelque chose qu'on peut pas trouver. En exemple, les noises, ça peut être un diamant dans une poubelle. C'est comme chercher quelque chose introuvable.
Noix, ça me fait penser à une pomme, quelque chose qui est noisy après.
Passer le temps en essayant de chercher quelque chose qui ne sert à rien.
Chercher un trésor.
La puce à l'oreille.
Alors, Daniel Lacote, intéressante leur proposition.
Ah oui, tout à fait.
Comme chercher
toujours,
des noises,
oui.
Chercher des noisettes. Ils sont pas si loin du compte.
Non,
hein.
Non. Mais chercher des noisettes, Lucie, je vais revenir juste après, là, parce que c'est très, très intéressant. Et en fait, chercher des noises, on donne tout de suite la réponse, si j'ose dire. Ça veut dire embêter quelqu'un, hein, évidemment, chercher querelle, se disputer.
Les embrouilles, chercher les embrouilles, les problèmes.
Voilà. Et c'est souvent pour des riens, pour des petits riens, sans véritable raison. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que soit ces noises au sein singulier, soit c'est noise au pluriel, et c'est un très très vieux mot qui date du 11e siècle, c'est très très ancien, et qui veut dire à l'origine du bruit ou du tapage. Alors, ça a donné en anglais, ça vient pas de l'anglais, beaucoup de gens pensent que ça vient de l'anglais parce qu'on connaît noise en anglais, et en fait c'est noise qui a donné noise en anglais. C'est passé dans l'autre sens.
Alors, on est passé du bruit
à la querelle, à la dispute.
Parce qu'il faut dire que quand on se dispute,
on fait du bruit. Voilà, c'est vraiment la véritable origine.
Pourtant, l'expression, elle arrive au XVIIe, alors que le mot noise, il date du XIe. Hein.
Voilà, l'expression vient beaucoup plus tard, mais ça, c'est un grand classique du genre. Alors là où on est un petit peu embêté, nous autres lexicographes, on n'a aucune réponse, ça arrive souvent qu'on n'ait aucune réponse, parce que ça vient d'un mot latin nausea, d'ailleurs nausée aussi, pourquoi pas, hein, c'est la même origine, qui veut dire le mal de mer, avoir le mal de mer.
Mais alors, est-ce que ça serait pas en rapport avec le tapage que font justement les vagues?
Les vagues, c'est possible.
Et qui peuvent rendre malade.
C'est possible. Vous avez raison, ça peut être ça. Alors on peut dire aussi chercher noise, tout simplement, au singulier. Chercher une noise, voilà. Et alors, c'est très, très intéressant. Quand j'ai entendu le mot noisette, et j'y viens seulement maintenant, parce qu'il y a une expression, c'est chercher noise pour noisette. C'est très marrant. Alors, ça veut dire chercher noise ou chercher des noises, chercher querelle pour noisette. Donc, selon vous, pourquoi pour noisette?
Parce que ça vaut rien du tout.
Pour rien du tout. Pour une toute petite noix, donc une noisette.
Donc, c'est chercher l'embrouille pour rien.
Voilà. On dit aussi chercher des crosses. Je devrais pas en parler, parce qu'on n'a aucune explication sur chercher des crosses.
Qu'est-ce que c'est qu'une crosse?
Alors, ça viendrait du verbe crosser, avec deux S, hein, crosser. Et le verbe crosser, alors c'est pareil, c'est un verbe du Xe siècle. La seule explication, sans étymologie, sans rien savoir, on sait que ça veut dire se plaindre. Voilà, c'est tout. Donc, chercher des crosses, équivalent, se plaindre.
Ça n'a rien à voir avec la crosse pour jouer au hockey.
Il y a deux acceptions. Crosser, se plaindre, on ne sait pas pourquoi. Sinon, c'est crosser.
Battre.
Voilà, battre une balle ou un palais avec une crosse. Voilà.
On dit aussi chercher chicane. Une chicane, c'est une difficulté sur un point mineur pour embrouiller un dossier. Quoi.
C'est ça, c'est ça.
Donc on cherche des crosses, on cherche chicane, on cherche l'embrouille, on cherche la petite bête. En fait, il y a plein de choses qu'on cherche pour embêter l'autre. Quoi. On lui cherche
c'est
des
ça.
Poux même.
Chercher des poux dans la tête aussi, oui, bien sûr.
Et ailleurs, alors comment est-ce qu'on dit en Espagne?
Alors allez-y, là. Je
on cherche la bouche à quelqu'un.
Ah oui, c'est
ce qui va assez avec l'idée de la dispute et du bruit. On imagine une forte argumentation, surtout dans ces latitudes.
Et en anglais, vous avez trouvé.
Alors en Angleterre, on cherche pagaille.
Ah, pagaille, oui.
En Espagne, donc on cherche la bouche, on cherche aussi des puces. En Belgique, on cherche aussi une brette qui vient de bretteur, la personne qui aime se battre à l'épée.
À l'épée, oui, d'accord.
Et en Roumanie, je sais que vous appréciez particulièrement ce coin du monde. On cherche querelle avec la chandelle. Pourquoi la chandelle? Aucune idée.
Ah ben voilà, je sais. Là, je peux pas vous dire comme ça. Non, je sais pas.
Est-ce qu'on fourre la chandelle de l'autre dans l'œil?
Oui, je ne sais pas. On se brûle, voilà. je sais pas du tout. Mais vous savez, on en parle souvent à propos des expressions. C'est-à-dire que on a souvent des réponses très cartésiennes, il faut le dire, ou des réponses très simples, une étymologie et des dérives. Mais on a souvent aussi, on reste le bec dans l'eau. Voilà, c'est une belle expression.
Fort heureusement, mon cher Daniel Lacote, vous n'êtes pas homme à chercher la petite bête à la puce. Ça serait un comble. Merci d'être venu nous apporter vos éclairages une fois encore. Je rappelle aux auditeurs que vous venez de faire paraître 100% Zéro Faute et qu'il est édité aux éditions First. À très bientôt.
Merci Lucie.
Merci à vous, merci Lucie. Daniel Joanneau, chercher des noises, ça n'existe pas dans la bouche d'un ambassadeur, j'imagine. Et en même temps, être ambassadeur, ça suppose de maîtriser parfaitement la langue, et en l'occurrence la langue française quand on est ambassadeur de France.
C'est préférable.
Mais est-ce que cela est une qualité indispensable pour être ambassadeur? Parce que dans votre dictionnaire amoureux, vous citez énormément d'ambassadeurs qui ont été écrivains. Et vous rappelez que beaucoup d'écrivains comme vous, plutôt beaucoup de diplomates comme vous, sont aussi des écrivains.
Alors moi, ce n'est pas parce que j'ai écrit ce livre et ça m'a beaucoup intéressé et j'ai beaucoup aimé ça, mais je suis pas du tout écrivain. Mais il y a de grands diplomates écrivains, Paul Claudel, Saint John Perse, Giraudoux, et il y a des écrivains qui ont été diplomates à un moment de leur vie, Jean-Christophe Ruffin, Jean-François Parot, Daniel Rondeau, Olivier Poivre d'Arvor.
Mais pour faire un télégramme, puisque c'est le mot consacré diplomatique, il faut pas forcément être écrivain.
Non,
il faut avoir le sens de la synthèse et de l'information.
Il faut écrire clairement, ça peut très bien être sujet, verbe, complément, vous savez.
Merci Daniel Joanneau, votre dictionnaire amoureux de la diplomatie est édité chez Plon. Toutes les infos sur la page de l'émission RFI.fr et sur la page Facebook de Vive Voix, Véronique Durand, Guillaume Ploquin, Julien Lingue. On se retrouve demain.